un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Il faut lire cet article publié dans Le Monde le 21 août, intitulé « Marinka, cité fantôme, méthodiquement rasée par les forces russes ». Il est signé par Florence Obna et raconte l'apocalypse qui s'est abattue sur cette ville du Donbass, les bombardements et pilonnages systématiques, carré par carré, qui l'ont réduite en poussière. On y voit comment un à un ou par petits groupes, chacun de ces 12 000 habitants a pu fuir sous ce déluge quotidien, ce qu'ils ont emporté avec eux, l'unique objet, un parfum, un livre, toute une vie dans leur baluchon. Ce n'est pas seulement parce qu'il nous fait voir à hauteur d'hommes et de femmes les crimes de cette guerre d'usure, sa folie, son vertige et sa vie quotidienne, mais aussi parce qu'on y découvre les anges blancs, des policiers chargés de l'évacuation des civils, des vivants, des morts et des blessés. Avant la guerre, ils avaient une bien sale réputation, corrompus, violents, explique Obna. Ils ont peu à peu gagné ce surnom, ange blanc, qui donne la mesure de leur dévouement et rappelle la couleur aussi de leur premier véhicule. Désormais, ils font tout, apportent de l'aide humanitaire, font office de secouristes, de pompiers et ont évacué à Marinka tous les civils. Ils incarnent à la fois le sacrifice et le dévouement, le sens de la mission et l'amour de la patrie. Autant d'idéaux qui sont aussi ceux du gendarme que nous vous présentons aujourd'hui. J'ignore s'il a lu cet article, s'il connaît les anges blancs, mais il en a la gueule d'un ange et les idéaux. Évidemment, le contexte n'a rien à voir, soyons bien d'accord, la comparaison est un peu hasardeuse, même si, on l'entend ça et là, c'est la guerre dans les quartiers. Et surtout, lui a le choix, rester ou partir, mais avant cela, décrire ce qu'il a vécu et vu. Gendarme par Alain Lefkovitch.
J'ai actuellement 26 ans et je suis gendarme en région parisienne. Mon père vient d'une famille d'industriels et d'agriculteurs riches, mais désargentés du coup. J'ai pas pu profiter économiquement malheureusement de ces chances-là puisqu'il a tout dépensé. Et ma mère, c'est plutôt famille prolo. Ma grand-mère, c'est un peu le self-made woman. C'est-à-dire qu'elle a commencé tout en bas secrétaire et elle a fini cadre sup à la chambre des métiers. Quand j'étais tout petit, je voulais être gendarme. Parce que j'avais le côté droiture et puis cette valeur du service public, d'être utile aux autres. Moi j'ai commencé à 15 ans m'engageant au Parti Socialiste. J'étais syndicaliste. J'étais pour un État qui était relativement fort, sans être stalinien, plutôt communiste. Du coup, j'avais quand même un certain esprit de l'ordre, que les choses soient carrées, de la gestion sociale, un système qui soit très égalitaire, avec une grande liberté au maximum. J'ai toujours voulu faire un métier pour les autres, je me considère de gauche, que je pense que à l'origine, le métier de policier ou gendarme, c'est un métier qui est de gauche, en fait, dans l'esprit, parce que c'est être là pour son prochain. Ça fait un peu catho dit comme ça, mais voilà, c'était ça l'esprit, en tout cas, de mon engagement à l'origine. Je suis arrivé en école gendarmerie en novembre 2019. Premier jour où je suis arrivé, je me souviens, c'est un grand portail blanc. C'est une école de gendarmerie à plus de 5 heures de Paris. Première chose qu'on reçoit, c'est un survêtement gendarmerie. On peut pas vraiment dire que on a l'esprit gendarmerie, on se sent pas gendarme quand on arrive directement le premier jour en école. Mais il y a en tout cas ce semblant de militarité. Alors on nous donne des ordres, on me dit « tu vas à cet endroit-là ». Voilà, des gens de toute contrée, plutôt classe moyenne en général. On est quand même pas mal du Nord, parce que c'est en sociologie de la police ou de la gendarmerie, on voit qu'il y a quand même majoritairement des gens du Nord. Tous les élèves étaient blancs, il y avait très peu de femmes. Ça reste quand même très blanc, très, très homme. Et voilà, ça se passe bien. Moi, j'avais déjà fait mon petit groupe d'amis sur Messenger, j'avais discuté avec les premiers, et du coup, on se retrouve, c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. Les gens sont excités, exaltés un peu de l'aventure qui se dessine devant eux. Les gens sont pressés d'incarner, et moi-même aussi un peu, d'incarner voilà, l'ordre, l'État. Il y a l'esprit de corps qui est quand même assez important et quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire, au-dessus de l'individu, on défend quelque chose qui est plus grand que nous, servir les autres, et c'est une fierté de porter l'uniforme. très rapidement, je suis quand même senti un peu de côté parce que on se comprenait pas très bien avec mes collègues et ils ont découvert en plus que j'avais un passé de syndicaliste. Et du coup, direct, on m'a catégorisé comme un peu le gauchiste de la promotion. Et clairement, on m'a mis à la misère. Quoi. On m'a bien dit, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas à ta place, t'es un gauchiste, rentre chez toi. Quoi. On m'a bien fait comprendre que ça allait pas coller. Et puis, quand il y avait des discussions un peu sociales, parce qu'on est à l'époque, pour recontextualiser, on est en novembre 2019, on est en époque des Gilets jaunes, autant dire que c'est déjà compliqué. On entend des discours au sein de l'école, où on plaint plus les gendarmes mobiles de ce qu'ils prennent qu'en face les manifestants éborgnés, les mains en moins et autres. C'est vraiment, on a un discours très étatique qui est, ils l'ont mérité. Si ils ont été blessés, c'est que ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment, qu'ils ont fait des choses qu'il fallait pas, et que voilà, ce n'est que la réponse de l'État et qu'elle est légitime. Et que nos collègues, ce qu'ils font, c'est légitime sur le terrain. Là, il y a tout ce discours ambiant déjà qui est là pour renforcer l'ordre, pour renforcer les institutions, et pas de remise en question. Il faut lutter contre tout trouble à l'ordre républicain. Les seuls moyens d'exprimer la démocratie, selon eux, c'est les urnes. Et c'est tout, en fait. Le reste, il n'a pas à s'exprimer. Du coup, je me suis posé beaucoup de questions sur ma scolarité. Mais je me suis dit, naïvement, mais je me suis dit, c'est l'école, c'est un esprit particulier. C'est quand même des gens qui sont jeunes, qui sont peut-être un peu immatures. La moyenne d'âge, c'était 24 ans. Mais on peut garder espoir qu'en vieillissant, ça va aller un petit peu mieux. En fait, je laissais couler, je répondais pas aux remarques qui étaient faites. Les gens avec qui j'étais, des propos racistes, c'était pas choquant. Comment on genrait aussi. Quand on fait du sport, par exemple, directement, en école gendarmerie, on vous dit non, mais les femmes, c'est pas pareil. On peut pas leur demander la même chose. Elles ont pas votre niveau. Vous devez être sportif, vous devez donner mieux. Bon, les femmes, si elles réussissent, c'est bien. Si elles réussissent pas, bon, on s'en fout. On m'a fait comprendre que. On n'était pas forcément au service de la population. Et les palpations de sécurité, on va pas en faire sur tout le monde et n'importe où dans la rue. Et ils disent en gros, dès qu'il y a un petit peu de danger, le danger est facile à justifier. Une personne noire, je suis désolé, pour eux, c'est un danger dans ce cas-là. Ça a été dur. Il y a eu des moments de remise en question. Forcément, je ne vais pas dire que tout a été dans le meilleur des mondes. Il y a des moments où je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que vraiment j'ai envie de continuer dans la gendarmerie? Entre l'école et la pratique, il y a déjà un fossé. Notamment sur le judiciaire, par exemple, on nous apprend rien à l'école. On arrive sur le terrain, on nous abandonne un peu. On nous laisse un peu tâtonner. Pendant un an, on galère. Du coup, là, déjà, ça a été difficile. Faut pas s'étonner de la qualité des procédures judiciaires. On nous forme pas. Chacun fait son micmac. On a un tuteur, on nous apprend vite fait. Jeune gendarme, clairement, on n'y connaît rien. On est obligé de suivre ce que nous dit l'autre. Et des fois, on va pas être d'accord avec certaines pratiques. Il y a un truc qui m'a choqué aussi, par exemple, sur la procédure judiciaire, c'est que très rapidement, on nous apprend que. Falsifier un petit peu, c'est pas très grave sur la vérité. Je me souviens sur un contrôle stup, on contrôle le mec au hasard. Effectivement, il avait passé feu, mais après, on a dû bien justifier. Alors qu'avant, on a dit, les yeux, ils étaient bien rouges, etc. Le mec, il avait perdu dans son état normal. Alors que c'était faux, mais il fallait justifier le fait qu'on lui fasse un contrôle stup. Il fallait trouver l'excuse. Et du coup, il faut pas hésiter. Ou même, je vais pas mentir, tout le monde antidate ses procès-verbaux. Alors que. Ça nous arrive tous des fois, j'ai pas eu le temps de le faire ce jour-là, c'est pas grave, je le ferai après et puis j'antidaterai, on s'en fout. Ça nous arrive tout le temps, faire des faux, alors que c'est quand même, je crois que c'est 3 ans de prison. Plus si on est force de l'ordre, en plus je crois que c'est 5 ans en étant force de l'ordre, voire plus. Tout le monde le fait, et c'est connu. C'est très facile de mentir dans un procès verbal. Sachant qu'on est un système où on doit toujours passer par ce qu'on appelle la VH, la voie hiérarchique, c'est très compliqué de faire remonter les choses. Même quand il y a des discours problématiques, j'ai des potes de police qui utilisent « Non, mais tiens, regarde, c'est encore un bâtard », pour utiliser le terme de certains. Quand t'as un collègue qui vient te dire « Non, mais c'est les Suédois », avec des grands guillemets pour parler en fait des gens qui sont noirs, qui sont arabes, en tout cas qui sont pas blancs. Pour eux, c'est des populations qui vont foutre la merde, pour utiliser leurs propres termes. Ou quand t'as un collègue qui vient te dire c'est toujours les mêmes qu'on a de toute façon, alors c'est eux qu'il faut contrôler en priorité. Si vous êtes anois, noir ou arabe, clairement vous allez vous faire contrôler pour stup parce que vous avez tête d'emploi. Alors, en général, ils le disent pas comme ça, ils utilisent plutôt le terme de « non mais c'est l'instinct ». Mais cet instinct, il est fondamentalement raciste. Alors qu'on a plein de petits blancs qui fument du cannabis ou qui prennent d'autres drogues, quantité assez importante. Dans les grandes écoles, ça tourne quand même relativement beaucoup. Et clairement, ils se font jamais contrôler parce qu'il y a ce délit de faciès. Moi, je le vois. Et même le délit, il s'applique aussi à un véhicule. Parce qu'en fait, c'est pas juste la race, c'est aussi une question de classe. Ce qu'on va contrôler, ce que je vais contrôler, même moi, hein, c'est les voitures de merde. C'est-à-dire, c'est des voitures anciennes qui roulent à peine, c'est celles où c'est où on va trouver des problèmes. Alors que celui qui roule en Porsche, il sera jamais contrôlé. Il y a toujours ce privilège de classe. Je faisais les stats il y a quelques jours avec des amis. On peut parler dans les forces de l'ordre d'à peu près un militaire sur deux, un policier sur deux, qui clairement est raciste et ne s'en cache pas. 30% pas qui approuvent, mais en tout cas qui ne feront pas de commentaires là-dessus. 10% qui sont plutôt centristes, qui vont pas être d'accord avec ça. Et 10% de gauche, quoi. Et 10% de gauche dans les forces de l'ordre, personnellement, en tant que forces de l'ordre et personne de gauche, bah, c'est inquiétant. Et même dans mon unité... Là, ça va, mais on en avait un. Il se revendiquait FN. Il avait même un pins du Front National, qui est un parti d'extrême droite. Et ça gênait personne. Et jamais personne ne lui a rien dit. Je me souviens, ça devait être en l'été 2020. Je venais d'arriver il n'y a pas très longtemps. Il y avait des gendarmes mobiles du coin avec nous pour nous renforcer sur les interventions. Et ces gendarmes-là, je me souviens très bien, ils étaient devant une sorte de petit boubli pour commander des burgers et autres. Et il y en a un qui a sorti... moi, vous me laissez une arme dans un quartier, mais vous inquiétez pas, hein. Moi je tire à vue, il n'y a pas de souci. Ça m'a vraiment choqué. À ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, où est-ce que je suis arrivé, hein? Et c'est un discours qui n'est pas caché. Je me souviens d'un collègue, c'était une personne arabe, c'était en pleine nuit, bizarrement, les seules voitures qu'il décidait de contrôler, c'était des personnes noires ou arabes au volant, quoi. Clairement, on n'a pas choisi le véhicule parce que j'ai vu un petit défaut sur la plaque, ou non, je voulais vérifier le contrôle technique. On va trouver une excuse bidon, on en trouve plein, par exemple sur un véhicule. Ça, c'est des excuses qu'on va sortir sur un procès verbal. En fait, c'est totalement faux. Et c'est ça aussi le problème, c'est de dire non, mais je ne l'ai pas contrôlé pour ça, je l'ai contrôlé parce qu'il y a ci, il y a ça. On était en poste de police route là, alors que c'est totalement faux, on n'était même pas en poste de police route, on se promenait. Qui va vérifier en fait? Et puis directement le tutoiement, alors que par exemple avec une personne blanche, t'inquiète, je vais m'occuper de toi. Hein. Comme si c'était vraiment un citoyen de seconde zone. Et c'est récurrent, et les collègues, quand on essaye d'en parler avec eux, quand moi j'essaye en tout cas de les faire réfléchir là-dessus, ils s'en foutent. Ils disent, bah non, c'est le système, c'est normal. On doit participer à cette perpétuation du système. Mais en tant que gendarme, je suis pas là pour perpétuer les inégalités. Quand j'essaye d'en discuter, de faire un peu changer les choses avec mes collègues, j'essaye de leur dire que c'est pas normal. Je leur dis, non mais tu peux pas parler comme ça aux gens en fait. Mais tout ce qu'on me dit, c'est, ouais, non mais toi t'es un gauchiste de toute façon. On me décrivise en mode, non mais tu penses pas comme nous et c'est tout en fait. Ferme ta gueule, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ils sont dans leurs a priori, c'est banalisé. Et c'est pas moi, tout seul, contre 10 collègues qui va changer les choses. Ça sert à rien, c'est parler dans le vide. La femme objet, c'est pas un mythe, hein, clairement. Comment ils parlent des femmes, tiens, t'as vu son cul, dis donc là, la cliente. Quand il y a une jolie fille à l'accueil, bizarrement, il y a beaucoup de collègues qui vont à l'accueil. Ils disent, dis donc, c'est sympa ça, dis donc, t'es chanceux, toi. Je me souviens même d'un major, d'un commandant, qui me disait, dis donc, t'as vu son petit boule là, en plus, c'est mon commandant, quoi, vous imaginez, moi j'étais en mode, il sait qu'il me parle à moi, jeune gendarme, il me dit ça, quoi. Et ben, waouh! C'est quand même choquant de son commandement direct d'entendre ce genre de propos. Et même avec la féminisation du métier, il n'y a pas grand-chose qui change, quoi. Alors essayer de leur faire réfléchir dessus en disant « Ouais, c'est sexiste ce que tu dis. D'ailleurs, j'ai déjà essayé une fois, c'est bon. Alors après, vous tapez 15 minutes de « Ah, gna gna gna, c'est quoi le sexisme, on peut plus rien dire. » Et voilà. Et du coup, même les femmes perpétuent à continuer les relations genrées. Et dans le travail, on le voit aussi. C'est-à-dire que sur les auditions des enfants, sur tout ce qui est violence, notamment sexuelle, c'est principalement les femmes qu'on va guider vers ça. On va leur dire « Bah ouais, c'est ton rôle de le faire. » Et nous, les hommes, ça va être « Non, toi, tu dois être fort. Toi, tu vas faire des réparations si besoin. Toi, tu vas plutôt partir dans l'intervention. » Même s'il y a des femmes en gendarmerie, en fait, on se rend compte que même les femmes en gendarmerie sont sexistes. C'est-à-dire qu'elles ont une vision de la femme qui est assez dégradante, où la femme, elle va être chiante. En gros, elle va avoir ses humeurs. Les stéréotypes, ils restent les mêmes. Celle-là, elle est chiante. Aujourd'hui, elle doit avoir ses règles. Elle a besoin de se faire baiser, quoi. Je suis resté malgré tout. J'avais d'autres collègues avec qui je me suis entendu très bien tout de suite. Voilà, j'en ai un notamment qui est diplômé, qui a plutôt un bon bagage culturel et avec qui on pouvait parler politique et où je pouvais donner mon opinion, même s'il ne les partage pas. On pouvait discuter de façon posée et on avait la même opinion sur les problèmes de racisme au sein des forces de l'ordre. Même si j'étais plus en accord, forcément avec tout ce que je faisais. Moi, en tout cas, j'avais l'impression d'avoir quand même un rôle social intéressant et utile. Et malheureusement, c'est un peu trop rare parce que dans mon métier, en tout cas dans la procédure judiciaire, c'est beaucoup de travail pour au final très peu de résultats. J'ai l'impression de travailler pour rien, vraiment pour rien. Je fais des procédures, je sais que je vais devoir entendre les gens, que je vais devoir acter en procédure, etc. Et en fait, tout le monde s'en fout, ça sera lu par personne, ça va finir dans les poubelles de l'histoire. Faire des procédures, je sais que ça va à la poubelle. Voilà, c'est-à-dire que j'ai gâché 2 heures à prendre une audition alors que tout le monde s'en fout. Ça m'énerve et du coup, j'en peux plus. J'ai pas l'impression d'aider les gens concrètement. Entre l'idéal que j'avais en rentrant en gendarmerie et celui que j'ai connu sur le terrain, parce que maintenant, c'est un peu plus de 3 ans que je suis réellement sur le terrain, bah, y a eu un désenchantement. Et voilà, moi personnellement, j'en peux plus. Je me sens solitaire dans la gendarmerie. C'est dur, franchement. Je reconnais, j'ai été naïf à croire que je pourrais changer les choses. Même qu'un certain qui va avoir des propos avec des personnes racisées ou autres, c'est impossible de les faire remonter. Et même si on est officier, même si on dirige son unité, parce que au-dessus on a un commandant, au-dessus on a un colonel, et il va nous imposer des choses. Il va dire non, c'est comme ça. C'est dur à vivre. Et du coup, être de gauche et dire oui, je vais réinvestir la police, je vais réinvestir la gendarmerie ou certaines administrations. Bah, c'est beau comme projet, mais ça sert à rien, parce que de toute façon, la hiérarchie, elle restera scalée, elle restera de droite. On est astreint au système politique, au gouvernement, et du coup, on ne changera pas le système de l'intérieur. Je me suis radicalisé dans la gendarmerie. Là, c'est un peu l'histoire drôle, hein, parce que normalement, on devrait avoir tendance à devenir de plus en plus de droite, et à se radicaliser plutôt à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Mais c'est du coup au fil de discussions en dehors de la gendarmerie et des rencontres que j'ai faites que d'autres opinions se sont développées et que j'ai développé une fibre anti-étatique. J'ai fréquenté une petite librairie, pas anarchiste. Je suis entré dedans par hasard parce que je me suis dit, bon, pourquoi pas, tiens, pour voir un petit peu ce que c'est. J'ai commencé à discuter avec... le vieux sage avec la grande barbe blanche, une représentation un peu de Dieu comme on pouvait en faire au XVe siècle. Moi, je lui dis que je suis communiste, un peu ma pensée assez pro-étatique et tout. On parle de Marx, du coup, il me fait découvrir Proudhon, j'achète des bouquins, je commence à m'intéresser un peu à l'anarchisme. Et voilà, et du coup, au fil de mes discussions avec lui, au fil de mes lectures sur l'anarchisme en général, hein, je suis devenu anarchiste. Et forcément, être gendarme anarchiste, bah, défendre l'État et en même temps vouloir abolir l'État, c'est un peu compliqué au sein d'une même entité. En mars 2023, au moment où on se rend compte des mensonges du gouvernement sur ces 1200 euros de retraite minimum et autres, plus il parlait déjà ensuite pour essayer justement d'apaiser un peu, ou en tout cas pour essayer de tourner la colère vers autre chose, de la loi immigration. Et je me suis dit, ouais, pour qui je travaille? Clairement, je me suis dit, pour qui je travaille? Est-ce que je peux vraiment continuer de travailler pour ces gens-là? Et quand je vois qu'ils ont utilisé en plus le 49.3, je me suis dit, elle est où la démocratie? Si on en plus... pareil, leurs paroles, oui, vous voyez, l'extrême droite dans l'Assemblée nationale, eux au moins, ils ont été respectueux, ça a été bien. Moi, je me suis toujours dit, l'extrême droite, c'est ma limite, jamais je travaillerai pour un gouvernement fasciste. Et j'ai l'impression qu'on se dirige de plus en plus vers ça. Quand je vois le communiqué de ces alliances police et l'autre là, qui appellent clairement à un coup d'État policier, où voilà, il faut... En gros, il faut détruire les banlieues, dynamiter, et puis les gens, on les envoie à l'Est pour rappeler un peu le recommencement de l'histoire. Et quand je vois que le gouvernement ne pose pas de limites, ne dit rien à ces syndicats-là, ouais, je me dis qu'en Algérie ou en Tunisie, c'est l'armée qui dirige ces États-là. Ouais, je me demande en France si on ne va pas finir par la police qui dirige l'État. Parce que j'ai l'impression qu'on s'en rapproche de plus en plus. En tout cas, au sein du ministère de l'Intérieur, et même de notre côté en tant que gendarme, j'ai l'impression, et c'est un constat qui est partagé avec mes collègues, que c'est les syndicats de police qui dictent leur opinion, qui dictent leurs idées, et que les pratiques policières se font en fonction de ces syndicats. Moi, ça m'inquiète, quoi. Clairement, il y a déjà une certaine dualité en moi, d'être gendarme et en même temps d'être de gauche. Et puis, je vais au boulot et je me dis, mais à quoi je sers? Qu'est-ce que je fais? Je sers le système. Je rentre vraiment en contradiction. Quand je vais en manif, face à mes collègues, je vois mes collègues en fait. Ils ont les mêmes intérêts que la population générale. C'est-à-dire, les retraites, on se fait autant niquer que les autres et c'est que pour une petite partie de la population, pour les privilégiés, pour les 1% qui payent très peu d'impôts. C'est juste pour enrichir les plus riches et appauvrir les plus pauvres. Face à mon désenchantement, face à l'inaction du gouvernement, j'ai écrit un article dans Mediapart sous le nom Gendarme démissionnaire, pas sous mon vrai nom. Parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point les forces de l'ordre peuvent être problématiques. Même au sein des forces de l'ordre, j'espère que ma lettre a été lue par des collègues. Et du coup, j'espère que ce soit un peu un élément déclencheur en mode ras-le-bol. Oui, il faut en parler. Il faut dire que tout le monde n'est pas raciste en police. Alors, on est une minorité. Hein. Du coup, ma lettre de mars 2023. Alors... Je suis en colère et profondément déçu de ce système, de ces injustices qui triomphent encore une fois de plus. Je ne veux plus être derrière lui, je veux être devant. J'ai envie de manifester cette colère, mon mécontentement. J'ai envie de rejoindre la lutte face à ce système profondément injuste, passer de l'autre côté de la barricade, comme diraient certains. Aujourd'hui, je démissionne. J'ai dit à mes collègues que je partais pour eux, bon c'était pas très étonnant. Et là du coup j'ai été convoqué par mon commandant pour essayer de m'expliquer parce qu'ils comprenaient pas que je vais partir, parce que j'ai pas trop de problèmes dans mon boulot, je suis plutôt apprécié dans la qualité de mon travail. Mais j'ai dit ben non, pour moi c'est plus possible, en fait ce qu'on fait c'est inutile. Et lui-même a reconnu que, il m'a dit ben je comprends ton point de vue. Parce que, faut pas croire, il y a quand même quelques gens qui le comprennent et j'ai de la chance qu'en tout cas au niveau de mon commandement direct, je peux parler de ces choses-là et... Et du coup, on m'a dit tes espoirs, tes illusions sur le changement à la gendarmerie, ils sont compréhensibles et la seule solution, c'est de partir. Pars, va voler tes propres ailes, de l'intérieur, tu feras plus rien et ça va juste te rendre triste, il faut que tu fasses quelque chose qui te rend heureux. J'aurais laissé un délai de 4 mois, du coup, ça, j'étais plus que raisonnable alors que mon préavis, c'est 2 mois. Même si, globalement, ils connaissent mes idées et que je les envoie valser si je suis pas content, bah, ils peuvent me pourrir aussi. Du coup, je suis obligé de mettre un petit peu d'eau dans le vin. Quoi. On pourrait très bien me dire, bah non, tes permissions, tu vas pas les prendre là, on te les mettra plus tard. On peut me dire, tes services, bah du coup, tu vas faire planton jusqu'à la fin de ton séjour. Je peux toujours me taper un arrêt maladie. Après, c'est pas dans mon éthique de partir comme ça. Surtout que si j'ai décidé de rester un peu plus longtemps, c'est justement pour pas foutre la merde dans mon service. Parce qu'on a des gens sous effectifs et que si je pars du jour au lendemain, je laisse mes collègues et qui sont pas tous des fachos et certains qui sont appréciables quand même, qui ont des qualités humaines, bah, je me vois pas les laisser seuls comme ça et puis démerdez-vous. Du coup, j'ai dit, bon, bah, je vais partir un peu plus tard, je vais leur laisser le temps de me remplacer, voire au moins passer l'été pour qu'ils soient tranquilles. Mais. Franchement, le boulot en soi est pas désagréable. C'est-à-dire que oui, on est relativement bien payé. Je ressors de nuit, oui, de temps en temps. En plus, mon logement est payé. Vu la région dans laquelle on est, c'est un luxe, hein, vu le prix des loyers. Mais, ouais, il y a une part de tristesse parce que bah, le bilan de ces 4 ans, pas très positif. Clairement, j'ai rien changé. Bon, voilà, même si j'avais l'espoir d'eux. Alors, parfois, j'améliore un peu la vie des gens, c'est sûr, parce que je vais pas avoir le même point de vue. J'ai déjà une fois accueilli une personne transgenre. Bah oui, avec moi, elle n'a pas été mégenrée. C'était un peu mieux accueillir quelqu'un d'autre. Du coup, oui, on met un petit tampon, on améliore un peu la situation. Voilà, certaines victimes se sont peut-être senties mieux aiguillées, mieux aidées. C'est pas totalement inutile et j'ai une expérience de la police et de la gendarmerie qui me sera utile, même dans l'avenir. Mais globalement, ça change rien fondamentalement au problème de racisme ou de sexisme, par exemple. Pour être sanctionné de façon assez grave, puisque j'ai pas le droit de vous parler, j'ai pas le droit de m'exprimer en tant que gendarme. Je dois respecter la neutralité politique, etc. Et toutes ces conneries qui font que je suis un sous-citoyen, parce que normalement, j'ai pas le droit de manifester. Ah, mes opinions politiques, elles sont pour moi, elles doivent rester juste pour moi. C'est ça aussi qui me fait quitter en partie, hein, c'est que j'ai envie de retrouver ma liberté d'opinion, j'ai envie de crier contre le gouvernement que je suis pas d'accord, j'ai envie de faire des actions militantes, et du coup c'était pas possible de rester. Et du coup ouais, il y a une part de tristesse, c'est sûr, parce que ouais c'est dur, je plaque tout, c'est une nouvelle vie, mais en même temps il n'y a pas que de la tristesse, il y a aussi de l'espoir. Je vais peut-être enfin pouvoir être un peu plus en harmonie avec mes idées politiques, peut-être participer à un changement. En tout cas, je vais tout faire pour, et j'ai besoin de retrouver ma liberté politique. J'ai appris beaucoup de choses, et ces choses-là me seront utiles plus tard. Et j'ai de la chance parce que j'ai conservé mes amis, j'ai des gens sur qui je peux compter, que je peux voir régulièrement. J'ai trouvé un appartement sur Paris. Enfin, je sais où je vais vivre, c'est déjà ça. Et puis, je sais déjà où je vais un peu travailler, dans un bar. Hein. Reconversion professionnelle à 190 degrés, même si j'avais déjà fait ça pendant mes études à Lille. C'est un monde plus ouvert d'esprit, puis plutôt dans un bar de gauche, voilà, où aussi on est en contact avec les gens, on voit un peu de la joie. Moi, je me souviens toujours, voilà, devant une bière, on refait le monde. On discute de philo, on discute de politique, on discute de sociaux. Et à côté, j'ai aussi milité à l'UCL, l'Union communiste libertaire. Puis je vais me mobiliser sur les actions, notamment clairement sur la police. Je pense que j'ai certaines connaissances qui seront utiles aux militants en général. Et on perd une certaine expertise, en tout cas, du sujet, pour l'avoir vu de l'intérieur. Du coup, je compte partager ça au maximum pour essayer de par l'extérieur, en tout cas, de toujours pouvoir changer les choses et pouvoir proposer une alternative à la police comme elle est faite actuellement. Parce que je pense que... on ne changera pas notre société sans changer la police, ça c'est sûr et certain. Et du coup, si on ne revoit pas nos pratiques policières, on ne pourra pas repenser la société comme elle est. Pour moi, c'est la meilleure manière de pouvoir changer les choses, c'est de m'engager politiquement. Et j'espère, en tout cas, changer plus les choses au final de l'extérieur que ce que j'ai pu essayer de l'intérieur.
C'était Gendarme, un reportage d'Alain Lefkovitch réalisé par Anne-Laure Chanel. Merci à ce gendarme anonyme, à India Burkel et Mathilde Salles, ainsi qu'à Hortense Martin, notre nouvelle stagiaire, et à Sandrine Chaperon, notre éternelle attachée de production.
If the bankers come.